L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Eh bien, bonjour Marie-Claude Siakezak et bonjour Latif Adrif.
Oui, bonjour.
Bonjour Hélène. À toutes les deux. Mmh. Donc, votre invitée Marie-Claude, qu'on a déjà entendu une première émission, Latifa qui nous a évoqué son travail au planning familial et qui nous dit aussi que maintenant à la retraite, elle continue dans ses convictions qui l'ont portée durant toute sa carrière professionnelle. Une conviction aussi sur les migrations, sur des parcours migratoires, sur et surtout sur la place des femmes dans les sociétés, non seulement au Burkina, on l'a évoqué, mais peut-être aussi d'ailleurs parmi ces femmes qui sont ici à Montpellier, qui sont peut-être dans une culture encore africaine et pourtant ici présente à Montpellier. Voilà, cette espèce d'équilibre à trouver que peut-être vous aider à franchir. Et Marie-Claude vous a aussi identifiée comme une spécialiste des mariages forcés.
Alors moi, oui, j'ai osé.
Voilà. Alors j'aimerais bien, Latif Adrif, que vous nous disiez un peu qu'est-ce qu'un mariage forcé? Quels sont les critères qui vous permettent de dire ça, c'est un mariage forcé?
Alors, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai travaillé pendant longtemps, pas toute seule, avec une collègue qui est aussi à la retraite depuis un an. Pour moi, le mariage forcé se situe dans des situations très précises, c'est-à-dire c'est une jeune, alors je dis jeune parce que ça concerne les jeunes, une jeune qui vient et qui dit « je ne veux pas me marier ». Ça, c'est le premier critère.
C'est sa parole, c'est une parole.
C'est une parole, elle vient demander de l'aide et elle dit je ne veux pas me marier » ou « on a le projet de me marier » ou « j'ai entendu ça ». Donc cet élément, la place à partir de laquelle on travaille sur la question des mariages forcés, elle est importante. Mmh. C'est pas j'ai entendu ma cousine, mon voisin, mon arrière-grand-mère, etc. Et je pense que ça, il faut tout le temps le rappeler. Donc c'est à partir de cette place qu'on parle du mariage contraint, forcé, imposé par la famille. Mmh. Et d'ailleurs même, à un certain moment, quand je bossais au planning, on dit, parce qu'il y a eu l'expression du mariage arrangé, elle circule encore, et il y a une collègue du planning familial qui disait « oui, il est arrangé, mais sans la fille ». Voilà. Donc le mariage forcé concerne quand même beaucoup de filles, en grande majorité, elles sont jeunes.
Moins de 18 ans, 15 ans, 16
non,
ans
non, non, non. En France, on ne peut pas. En France, bah, c'est oui. 18 ans le mariage. Hein. Ouais. Même si la France a été la dernière de la classe en Europe pour ajuster l'âge du mariage pour les filles et les garçons, parce que c'était 15 ou 16 et 16, etc. Non, en France, on ne peut pas. Mais il peut y avoir
des
entourloupes.
C'est quand même un mariage civil. C'est un mariage civil.
Non, ce n'est pas un mariage civil. Ça peut être un mariage contraint. Coutumier,
ouais.
Mais un mariage civil nécessite des actes de naissance, il faut que ce soit 18 ans. Et maintenant, dans tous les pays, c'est 18 ans. Mm-hmm. Mais il y a des situations qui peuvent nous échapper dans d'autres pays. Mm. Voilà, notamment dans des pays du Sud, où on peut marier une fille mineure. D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations qui sont pour les droits des femmes qui y travaillent. Non, c'est une personne, notamment une fille, qui vient, qui dit, voilà, il y a un projet, je ne veux pas. Et donc, nous, en tant que professionnels, on va essayer de débroussailler la situation pour voir comment on peut, avec elle, et surtout elle, faire pour échapper à la situation, pour échapper au mariage.
Mais d'où vient ce projet? Est-ce que c'est le futur mari?
C'est tout le monde. C'est tout le monde. Alors, j'ai envie de dire peut-être que, justement, parce que cette question est instrumentalisée, parce que peut-être qu'elle concerne en grande partie des jeunes femmes qui sont, j'ai envie de dire, en lien avec la migration. Mais elles sont françaises aussi. Voilà. Donc, c'est peut-être... les causes. Alors, les causes, d'après ce que je sais, c'est aussi des causes, comment dirais-je, qu'on a relevées de cette parole, comme vous dites. C'est soit j'ai envie d'aller faire des études ailleurs, soit j'ai fait une IVG, soit on a surpris la contraception, soit même parfois j'ai été violée. Et d'ailleurs, dernièrement, puisqu'on parle beaucoup de transsexuels, etc., quand même, c'est la troisième. J'ai reçu trois situations de jeunes qui étaient dans une. Comment dirais-je même pas dans une réflexion. J'étais carrément, donc, cette identité sexuelle d'être née dans un corps qui n'est pas le, voilà, qui n'est pas le bon corps, comme on dit, et qui était menacée de mariage forcé. Donc, les parents sont toujours dans une espèce de démarche de sauver l'honneur et de réparation aussi, de réparation. Et donc, nous, toutes ces questions, tout ce qu'on sait, tout ce savoir, c'est à partir des situations reçues, des situations, comment dirais-je, gérées et des jeunes qui sont reçus. Donc, la contrainte, elle est identifiée à travers cette parole, comme vous dites. Après, on raconte plein de choses sur mariage forcé. On raconte aussi beaucoup d'âneries, mais bon, c'est comme ça.
Mais alors, quels sont les outils, les moyens vous avez, vous, pour finalement empêcher ou arranger? Alors, du coup, je ne sais pas, quelles sont les solutions que vous préconisez, alors, que vous avez avec cette jeune fille?
Alors, nous, les solutions, on les préconise rarement. C'est souvent c'est très souvent les jeunes qui les trouvent. C'est-à-dire, mais par contre, si vraiment on a un cas de mineur, dans le cadre de d'ailleurs, en tant même que citoyen ou citoyenne, et en tant que professionnel, on fait un signalement.
Tout à fait.
Ça, c'est la loi.
La première des choses.
Voilà, la loi. Et déjà, même nous, le signalement, on n'est jamais pressé parce qu'on essaie, parfois, il y a des situations qui se déséquilibrent et on sait que le mariage, il a été abandonné. D'accord? Mais pour les adultes, moi, je sais que, par exemple, il y a des étudiantes, les solutions, c'est que quand le mariage est en France, il y a des solutions. C'est-à-dire, la première, c'est dire aux parents, vous n'avez pas le droit de me marier. Donc, affronter la famille. Affronter la famille, mais la famille est redoutable. Parce que la famille a toujours... c'est la psychologue, c'est Marie-Claude qui va l'expliquer mieux que moi. Il y a le conflit de loyauté. C'est-à-dire que les jeunes sont déchirés entre j'aime mes parents et je ne veux pas les décevoir. Et pourtant, ils veulent me faire du mal. Et là, je ne les aime plus, ils ne m'aiment pas parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ce projet et ils veulent me l'imposer. Donc, cette situation de conflit de loyauté est très présente dans les mariages imposés et elle n'est pas dans les violences conjugales. Donc, les violences conjugales, c'est les violences dans le couple, ce qui est différent. Et là, on est dans les violences perpétrées par les parents. En grande majorité, c'est les parents. Il peut y avoir le frère, c'est rare. Des fois, c'est la mère toute seule, des fois, c'est le père, des fois, c'est l'oncle, la grand-mère. Mais en général, c'est les ascendants. Donc, c'est les parents. Et donc, on est dans une situation où il y a conflit de loyauté. Et d'ailleurs, la condition que posent les jeunes quand elles viennent pour demander de l'aide, dans beaucoup de cas, elles disent « Je veux que vous m'aidiez, mais dites-moi que mes parents ne seront pas touchés. » Donc, elles refusent de porter plainte. Et c'est normal, je veux dire, ça se comprend. Donc, on est dans une problématique de comment dirais-je, qui met au centre ce conflit de loyauté avec la culpabilité. Et je me souviens d'une expression d'une fille qui disait « Si je pars, on m'ampute d'un bras, et si je reste, on va m'amputer de l'autre. » Donc, vraiment, je trouve que ça explique bien ce conflit de loyauté. Donc, généralement, après, il peut y avoir quand il y a des mariages en France, j'ai envie de dire c'est facile pour avoir des solutions parce que souvent c'est des projets et donc le projet on peut le faire échouer, mais quand il y a des mariages à l'étranger on peut aussi parce que ça veut dire qu'on va protéger la jeune pour dire, ou le jeune pour dire, il faut mettre tes papiers de côté au cas où tu pars au Sénégal et que tu retrouves pas tes papiers pour revenir, comment tu fais, etc. Parce qu'on a rapatrié des filles du Sénégal, du Maroc, de Tunisie. Et parce que, justement, il n'y avait pas ces précautions en termes de copie de papier et que pour retrouver des papiers au niveau du consulat qui peut tout à fait aider, etc., c'est compliqué parce qu'il faut qu'ils contactent la préfecture d'origine, de résidence, etc. Donc, on essaie de mettre en place un peu des moyens de prévention qui peuvent servir, mais le moyen de prévention le plus important, c'est en parler, c'est faire de la prévention, c'est dire que ça existe, c'est dire que si c'est consommé, c'est un viol. Parce que si la fille, c'est surtout la fille, si elle ne veut pas, voilà. Par contre, j'ai envie de dire, en plus de 15 ans d'expérience, j'ai quand même eu, avec des collègues, 4 ou 5 cas où le garçon, parce que le mariage, c'est quand même une contrainte à l'hétérosexualité, parce qu'on a aussi des garçons homo ou des filles qu'on a. C'est ça aussi parmi les raisons, les causes que vous souleviez tout à l'heure. Et il n'y a pas eu de rapport sexuel parce que le garçon a compris qu'elle ne voulait pas. Donc, il y a plein de... On pourrait écrire des pages et des pages sur, pour analyser tous les éléments autour d'un mariage contraint, qui peuvent être aussi... moi, je n'ai pas envie que mon fils se marie avec sa copine parce que sa copine, elle est sénégalaise ou elle est comorienne ou elle est... Peu importe, on va trouver un truc et c'est... Les parents sont dans une démarche de bien faire. C'est-à-dire, moi, je sais ce qui est bien pour toi et je sais ce qui n'est pas bien. Sauf que là, on est dans une forme de violence qui impose un époux et qui impose des relations sexuelles et qui impose de faire des enfants. Donc, c'est ça le mariage.
Marie-Claude, vous voulez réagir
à... Oui, justement, c'est très intéressant. Ça a beaucoup à voir avec ce dont parlait Latifa, y compris la semaine dernière, à savoir les postures migratoires, la position migratoire qu'on peut avoir. Et c'est vrai que ce qui peut-être à un moment tient vraiment et sûrement une famille et les enfants, c'est la culture d'origine aussi, ou tout ce qu'on peut ramener chez soi, malgré, les jeunes, par contre, après, ils évoluent dans un milieu beaucoup plus adapté. Et je pense qu'en effet, à un moment, c'est un peu... être dans ce conflit de loyauté, c'est avoir vraiment beaucoup de mal de violenter ce fondement, qui est un fondement double, parce que les parents en ont besoin, et l'enfant, quelque part, souvent, même dans sa vie extérieure, il peut être interpellé en tant que migrant, étranger, etc., etc. Et donc, c'est comme un moment, si on cisaillait, quelque part, une amarre, qu'on la sectionne un petit peu. Et puis après, on a toute la version aussi psychanalytique avec le lien, avec les parents, etc. Bon, ça fait aussi partie. Mais je veux dire, tout ça, c'est un amalgame. Et je pense qu'en effet, c'est sûrement beaucoup plus douloureux quand on est migrant et quand on est dans un amour familial de migration que quand on est d'ici et que à un moment, on dit zut, parce que les mariages arrangés, chez nous, ça existait. Alors, Latifa a dit justement, on disait arrangé, mais c'était aussi forcé. Bon, ça existe aussi en Inde. Là, récemment, j'ai vu une vidéo. C'est un couple qui s'est marié, alors qu'ils sont étudiants tous les deux en France. On les a obligés à se marier ensemble, parce que c'est l'Inde, c'est comme ça aussi. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, cette histoire de conflit de loyauté qui rend les choses plus douloureuses et plus compliquées encore, justement.
Oui, et par rapport au conflit de loyauté, juste, je voulais dire que... quand Marie-Claude, quand tu rappelles à juste titre que les mariages forcés existent partout et ils existaient, moi je peux témoigner sur plusieurs situations de jeunes issus de grandes écoles dont je tairai le nom, à qui on a imposé un mariage parce qu'il y avait des projets d'alliance entre les familles pour des entreprises. Il y avait aussi, pour un autre cas, une situation d'homosexualité, etc. Donc moi, je dis simplement qu'il faut, bien sûr, il faut tenir compte du parcours de la migration, etc. Mais il faut tenir compte avant tout de la personne, de ce qu'elle veut, de sa demande, de ses choix, et que le mariage, ne pas se marier... C'est un droit humain avec ne choisir son partenaire, ça fait partie des droits fondamentaux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est la situation, je veux dire, telle qu'elle est prise en charge, le planning à essayer est compliqué. On a un site internet que le planning a fait avec d'autres partenaires et c'est vrai que le site, le fait qu'il y ait des questions, une foire aux questions, une page juridique... ça, la définition aussi, ça, il est beaucoup, beaucoup visité et j'espère que le planning va continuer à le promouvoir parce que c'est vraiment un outil que tout le monde peut visiter et il est beaucoup visité par les pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a, parce qu'on fait... Alors moi, j'y connais rien, hein, c'est un de mes collègues, de mon ancien collègue qui fait ça, donc on peut voir le nombre
qui
de visites.
Qui consulte, voilà.
Oui. Qui consulte, etc. Mais c'est vrai que... Alors, après, j'en profite, parce que là, il y a aussi la démarche de travailler sur les violences, en tout cas, c'est la démarche du planning à laquelle j'adhère complètement, c'est dire que les violences sont un continuum. Et donc, pour refuser une IVG, c'est aussi une forme de violence. Refuser de donner la contraception d'urgence à une jeune, c'est aussi... ou imposer une grossesse, ou refuser que la femme poursuive sa grossesse, c'est aussi une violence. Donc, contraindre une personne, une fille ou un homme, à se marier, recevoir des coups, confisquer ses papiers, confisquer son salaire, la harceler dans la rue, lui imposer des codes vestimentaires, etc. Tout ça, c'est de la violence. Et ça s'inscrit dans un cadre de continuum. Donc aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment qu'on est dans une espèce, je vais le dire, c'est pas grave, de saucissonnage, c'est-à-dire on découpe. Non, tout a un lien. Une fille qui est mariée de force, et pourquoi c'est une fille ? C'est parce que on a pouvoir sur son corps et on décide qu'il faut qu'elle se marie avec un homme et pas avec une femme, parce qu'on n'a jamais vu l'inverse, ou un homme avec un homme, et qu'elle ait des relations sexuelles avec les personnes qu'on choisit, que la famille choisit. Et pour les violences conjugales, on a, pourvoir sur un corps, sur une personne qu'on considère comme un objet, et on va la tenir comme on veut, nous, comme je veux moi, en tant que dominateur, généralement c'est dans ce sens-là, parce que j'ai appris, dans les fondements, c'est un objet qu'il faut que je tienne, qu'il faut que je modèle, qu'il faut que j'isole et qu'il faut que je maltraite. Donc, c'est ça les violences faites aux femmes. Pareil pour l'excision. Donc, tu peux en parler. Pareil pour l'excision, pour plein de formes de violences. Et quand j'espère qu'on pourra parler un petit peu tout à l'heure du Gabon et je vous donnerai une autre forme de violence.
Moi, je voudrais simplement donner un petit exemple de quelque chose que j'ai vécu sur place au Burkina Faso. Alors, c'est un peu plus doux que la façon dont on vient de parler
Latifa.
Mais c'est quand même très, très nostalgique aussi. J'ai un ami qui a une cousine qui a un petit atelier de broderie avec des jeunes filles, etc. D'ailleurs, j'avais acheté des nappes magnifiques, etc. Vraiment, j'aimais beaucoup ces gens, ce couple et la dame particulièrement. Et un jour... on vient, j'étais venue déjà plusieurs fois, et puis elle me prend à part, puis elle me dit, tu vois la petite là, c'est son dernier jour, parce qu'on va la marier. Et je pense que la petite en question l'a su au dernier moment, parce que ça ne se disait pas. Ben, je peux vous dire que moi, d'abord, ça m'a vraiment fendu le cœur, bien sûr, mais moi, l'occidentale, la française, peut-être. Mais je peux vous dire que je suis retournée dans cet atelier quelques jours après, et il y avait quand même une petite tristesse ambiante, parce que la petite n'était plus là. Il y avait quelque chose. Pourtant, il n'y avait pas du tout, tu vois, tout ce que tu viens de décrire qui existe aussi, mais je veux dire, rien que ça déjà, il y avait avec les autres jeunes filles, même la dame, enfin la monitrice, là, celle qui animait. Voilà, c'était pour vous dire que même là, il y avait quand même un petit air une tristesse quand même malgré tout qui flottait dans l'air. Voilà.
Alors Latifa Drif, vous vouliez aussi évoquer le Gabon, autre culture, autre condition de travail, autre perspective de la femme.
Alors le Gabon, le Gabon, j'y suis allée un petit peu tout à fait par hasard. Parce que y a une gynécologue qui exerce à Port-Gentil, qui est moitié burundaise, moitié belge, c'est important, qui a fait ses études à Bruxelles et je crois à Nice aussi, à Bruxelles, et qui s'est installée à Port-Gentil, qui a travaillé pendant 20 ans en cabinet libéral et elle en a eu marre de voir des stérilités secondaires, de voir des viols, de voir des femmes qui vont avorter, de voir des femmes qui n'ont pas d'infos sur le corps, sur la contraception. Et elle a monté une ONG qu'elle a appelée 3S, Sensibilisation Santé Sexualité. Et au Gabon, vous savez qu'il y a Total, on va dire ça.
Oui.
Et donc, Total, d'ailleurs, moi, je trouve tant mieux, a soutenu l'émergence de cette association qui est en fait un petit planning qui fait de la sensibilisation à Port-Gentil, qui est la capitale économique. Et cette association a demandé au planning de l'aider pour développer ses actions de prévention, etc. Eh bien, il n'y avait personne au planning et c'était plutôt un couac. Et du coup, ça a atterri à Montpellier et moi, j'ai porté le projet. Donc, je suis allée 3 fois au Gabon. Ça n'a rien à voir avec le Burkina. ni sur le plan culturel, ni sur le plan accueil, ni sur le plan culture associative, etc. Mais j'avais été quand même informée solidement par un ami qui connaissait bien. Et donc, quand je suis allée, j'ai travaillé avec cette ONG et dans le cadre d'un appui par l'ambassade de France, parce que évidemment, il n'y avait rien sur la planification familiale. Donc, il y a une ONG qui arrive. Eh bien, la file active, elle monte exponentielle. Et donc, il y a beaucoup de sages-femmes. Donc, c'est un très bon boulot avec un cabinet médical de consultation, un point écoute et tout. Et moi, je suis allée un peu pour partager les outils pour aller travailler dans les écoles, auprès des jeunes, etc. Travailler avec des choses toutes simples. Donc, ça a bien marché. L'association continue et c'est là où j'ai appris aussi, d'ailleurs par rapport au mariage forcé, Guylaine, je voudrais vous dire que j'ai posé la question, on m'a dit il n'y en a pas. J'ai dit ah bon? Alors après il y a quelqu'un qui m'a dit non, on n'a pas de mariage forcé mais on a des unions forcées. J'ai dit expliquez-moi. On m'a dit mais si la fille par exemple elle est enceinte, on va l'obliger à se marier. Ben, je dis ben voilà, donc on est dans la contrainte. Donc une problématique, tant qu'on n'a pas les oreilles ouvertes, elle n'est pas visible. D'accord. Ensuite, ce qui était intéressant aussi, j'ai envie de le dire puisqu'on parlait de VIH, en parlant des violences faites aux femmes, les copines sages-femmes de Port-Gentil m'ont dit « Ah oui, mais le VIH, c'est comme les pizzas, c'est livraison à domicile. » Pour dire comment la contamination hétérosexuelle des hommes, etc. Donc, il y a plein de choses, mais j'ai trouvé, alors après, avec toutes les nuances que je peux mettre, j'ai trouvé une culture associative pas très développée comme le Burkina. J'ai trouvé un accueil pas très convivial. J'ai trouvé, même si j'ai eu une tenue africaine et j'ai été baptisée Ogans. Alors c'est la déesse de la paix, je crois. J'espère pas dire de bêtises. Donc voilà. Donc il y a eu ce contact qui a généré plein de rencontres et de liens que j'ai toujours. Et pour parler des violences, j'ai envie de dire, c'est un peu timide. Parler du Gabon, ça fait le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque le Gabon est un pays de migration. C'est un tout petit pays qui est dans le golfe de Guinée, sa forme de croissant là, et qui a 2 millions d'habitants, et 1 million, c'est des migrants. Donc, et d'ailleurs, les médecins, il paraît que c'est des médecins étrangers. Moi, ce que j'ai rencontré, je n'ai pas rencontré de médecins gabonais à Port-Gentil. J'ai rencontré des Maliens. J'ai rencontré les Burkinabés qui ont fait des études à l'université de Dakar. Et donc, c'est un pays de migrants. C'est un pays... Alors, on m'a expliqué que comme le climat ne s'y prête pas beaucoup, il pleut beaucoup. Peut-être au niveau culturel, il y a plein de choses hein, sur les ethnies que je ne connais pas, etc. Mais il y a peu de... J'ai pas vu de patrimoine, moi. Après, moi, je suis allée 3 fois 3 semaines. Hein, je peux pas m'engager et m'avancer à dire des choses sur des choses que sur lesquelles j'ai pas eu d'informations.
Vous y retournerez?
Ben, je devais retourner pour un colloque sur l'avortement et c'est ça l'état d'avancement des travaux du gouvernement que j'aimerais ici. Vraiment salué. Il y a eu un colloque qui devait être prévu. Malheureusement, il a été reporté 3 fois pour des raisons de kit sanitaire. Et la question de l'avortement, ben, là-bas, comment dire, tout le monde parle de l'avortement, alors que c'est interdit. Moi, ça m'a frappée. Je me suis dit, si on est, je ne sais pas moi, au Sénégal ou au Maroc ou en Algérie, on parle d'avortement, on est tout de suite. Là, tout le monde en parle. Et on vient te dire, madame, est-ce que tu peux pas me donner un petit quelque chose parce que ma copine veut avorter. C'est-à-dire, on en parle comme si on va faire les courses à côté pour acheter du lait, des yaourts.
Presque banalisé.
Donc c'est, il y a quelque chose qu'on parle et en même temps il y a les questions de comment dire, il y a très peu d'informations. Ça a démarré sur les questions de sexualité et il y a la question aussi des violences. Tout le monde parle de violences sexuelles. Moi, c'est des choses qui m'ont vraiment frappée. L'avortement, tout le monde en parle. Mais c'est interdit, hein, c'est interdit. Mais tout le monde fait. Mais tout le monde fait comme en France avant 75. Et comme dans les pays où c'est interdit. Je veux dire, c'est pas nouveau. Les femmes, quand elles veulent pas, comme vous savez, elles font. Donc il y a ça. Et c'est ces deux points. Et c'est peut-être le banc de lieux pour les jeunes. Donc, il y a cette association à Port-Gentil qui travaille beaucoup avec les jeunes. Et donc, il y a je ne sais pas combien de lycées. Et puis, les classes dans les lycées et au collège. Je suis allée une fois, on m'a dit « Ah, mais ne t'inquiète pas, Latifa, il y a 10 absents, ils ne sont que 83. » Voilà. Bon, voilà, ça vous donne une idée. Et parmi les violences, c'est ce qu'on fait subir aux femmes veuves. Ben, la femme veuve, elle est maltraitée. Apparemment, ça continue toujours. C'est-à-dire, la femme veuve, elle dort sur une natte, elle mange dans une écuelle, ce qu'elles m'ont expliqué. Et ce qui m'a aussi frappée, c'est qu'on l'oblige à aller avoir une relation sexuelle avec un homme, n'importe où, dans un maquis, voilà, et de revenir. Et après, quand elle revient, il y a une histoire comment on dit, le Lévira ou le Sorora, elle va être mariée, etc.
Ouais. Mais ça existe au Burkina aussi.
Ça existe. Il y a vraiment une maltraitance des femmes veuves. Je sais que la première dame, donc Sylvia Bongo, qui a une fondation, travaille dessus et c'est formidable. Puis il y a une autre forme de violence que j'ai apprise là-bas. Ça s'appelle l'eau chaude. Et c'est la femme à l'accouchement. Eh ben, elle est en fait, on lui balance de l'eau chaude. Et j'ai eu des témoignages dans le groupe avec lequel je travaille où il y a des femmes qui m'ont dit, mais on a pleuré, ça a été le martyr. Par contre, il y a d'autres femmes qui m'ont dit, moi j'ai décidé de la température de l'eau. Et donc, il y a plein de choses comme ça on va dans ces... Bon. Pourquoi on lave avec de l'eau brûlante? Parce qu'il y a le chaudron en face.
Alors, si je comprends bien, le colloque est maintenu.
Bah, je ne sais pas s'il va être
reporté. En tout cas,
ça c'est formidable.
Vous reviendrez nous en parler.
Voilà.
Parce que là, on est presque obligé violemment de vous interrompre.
Juste, 30 secondes, juste que le Gabon vient de lancer un projet de loi qui va être au Sénat sur la santé sexuelle et reproductive, avec tout le volet information, tout le volet accès à la contraception. L'avortement est toujours interdit, encadré, etc. Mais la question aussi des violences, la question du choix des femmes. Et moi, je suis ravie, je suis contente du travail de plaidoyer que j'ai soutenu donc avec les PAC 3 associations. Et c'est une très grande avancée. Et je suis très, très, très contente de le dire aussi pour que les gens le sachent.
Super. Merci, Latifa Drif. On termine en musique, Marie-Claude.
Oui, Latifa,
votre choix.
Revenir nous voir parce que ça n'a pas été dit. Avant de dire au revoir à tout le monde, je vais quand même vous proposer un grand monsieur gabonais du Gabon, Pierre Akendengue, et une chanson qui est absolument fabuleuse pour moi. Ça s'appelle Africa Obota. Et vous verrez qu'il n'oublie aucun pays d'Afrique. Voilà.
Merci à toutes les deux.
Au revoir, Hélène. Au revoir, Latifa. Merci.
Merci. Au revoir, Hélène et Marie-Claude. Au revoir.
Akawi abunjem, akawi njuwa o.